Bonjour, vous êtes bien sur Lilith Martin et les autres sur Radio Canus en 2.2. Alors aujourd'hui, on fait une émission d'une heure et demie sur les femmes dans la résistance de la guerre d'Algérie. Alors la guerre d'Algérie, c'est la bataille, les événements d'Algérie, la révolution. Donc on va essayer un peu de capter tout ce qui est... Qu'est-ce qu'a été cet événement qui a duré 8 ans, de 54 à 62, qui on parle peu en France, mais en tout cas je trouve, et quelle a été la femme, on veut parler de ça à travers du prisme du genre et des rôles des femmes dans cette guerre. Voilà, donc en gros, l'émission va s'articuler autour d'une présentation assez rapide de 1830 à 1945, qui est la période de colonisation où le français, le colon est allé occuper l'Algérie, a créé un département algérien, et on verra un peu qu'est-ce qui s'est passé pendant ce moment-là. Après, on va parler de la guerre d'Algérie et du rôle actif des femmes à travers des témoignages, vers le témoignage de Fatma Baïchi. Et on va terminer sur l'après-guerre, l'indépendance, la reconstruction de l'Algérie. Qu'est-ce qui se passe quand tu as été colonisé pendant aussi longtemps que tu dois reconstruire une nation, un peuple, je sais pas trop. Et voilà, l'émission, normalement, elle devait être avec une amie à nous qui s'appelle Myriam, qui n'a pas pu être là aujourd'hui parce qu'elle est au spectacle de sa petite fille. Et donc, on l'a enregistrée hier. Donc voilà, on a bossé toute la nuit un peu pour pouvoir monter l'émission. Et voilà, donc ça va être des enregistrements de cette copine et des enregistrements du témoignage de Fatma Baïchi qui va tout traverser toute l'émission.
Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel historique de la colonisation française de l'Algérie?
Le début, bien sûr, commence en 1830 avec donc le débarquement et de l'expédition militaire française, donc exactement en 1830, suite à un incident qui a eu lieu entre le Dey Hossein, donc c'était on va dire le gouverneur algérien qui était nommé par la Porte Sublime. Donc l'Empire ottoman. À cette époque, la France faisait passer donc ses navires par l'Algérie, ils s'approvisionnaient en Algérie, le blé, etc., etc. Donc ils passaient obligatoirement par là et ils devaient passer et payer une taxe. Et la France hésitait un petit peu à rendre cet argent. Et depuis cet événement-là, les Français sont arrivés pour se venger un petit peu des Algériens. Donc 1830, l'arrivée des troupes militaires françaises en Algérie.
Au temps où nous sommes et dans la crise que traversent toutes les industries européennes, la fondation d'une colonie, c'est la création d'un débouché. Il suffit que le lien colonial subsiste entre la mère patrie qui produit et les colonies qu'elle a fondées pour que l'influence économique accompagne après dominance politique. Jules Ferry. Débat parlementaire le 28 juillet 1885.
Ok, et qu'est-ce qui s'est passé après 1830?
Donc un régime d'exception a été établi dans la nouvelle colonie française et qui suivait pour les autochtones, il y avait une loi coranique qui était imposée aux Algériens et une autre loi civile aux Français ou européens. Et on pouvait mettre dedans aussi tous les habitants juifs qui habitaient en Algérie à cette époque-là. Dans la loi musulmane ou coranique, il y avait bien sûr une différence entre hommes et femmes, dans l'héritage, dans le divorce, le mariage, etc. Tandis que les Français étaient gérés par la loi française qui existait en métropole. Dès l'arrivée des troupes françaises, il y a eu des mouvements de résistance un peu partout en Algérie. La première connue était guidée ou inspirée par l'émir Abdelkader dès 1832. Et il y a eu plusieurs batailles à Laghouat, à Fatman Soumer, à Ould Sidi Chir. Donc tout ça, c'est des résistances, c'est des batailles qui ont eu lieu dès ce siècle-là. Après, en 1881, il y a eu des résistances dans le sud de l'Algérie, chez les Touaregs, avec Cheikh Hamoud. Et il y a eu plusieurs batailles dans l'est et dans l'ouest de l'Algérie. Ces batailles-là n'avaient jamais abouti, voilà.
Le général Bugeaud écrit le 18 janvier 1843 au général de la Mauricière. Plus d'indulgence, plus de crédulité dans les promesses. Dévastation, poursuite acharnée jusqu'à ce qu'on me livre les arsenaux, les chevaux et même quelques otages de marque. Les otages sont un moyen de plus, nous l'emploierons. Mais je compte avant tout sur la guerre active et la destruction des récoltes et des vergers. Nous attaquerons aussi souvent que nous le pourrons pour empêcher Abdelkader de faire des progrès et ruiner quelques-unes des tribus les plus hostiles ou les plus félonnes. Thomas Bugeaud déclare dans un discours à la Chambre le 24 janvier 1845 « J'entrerai dans vos montagnes, je brûlerai vos villages et vos moissons, je couperai vos arbres fruitiers. » Et alors, vous ne vous en prendrez qu'à vous seul.
Et qu'est-ce qui s'est passé le 8 mai en 1945?
Donc, le 8 mai 1945, il y a eu une répression assez féroce donc, de l'armée française pour des gens qui sont commencé à manifester, qui a duré plusieurs jours. Mm-hmm. Donc, mais la répression a commencé le 8 mai et il y a eu des massacres. Donc les Algériens sont sortis dans les rues réclamer leur indépendance, leur liberté, vu qu'il y avait aussi donc, des mouvements de libération. L'Europe s'est libérée à ce moment-là et les Algériens donc, voulaient aussi demander leur indépendance et leur liberté. Donc l'armée française parlait de 1 500 victimes, mais les historiens parlent de 20 000, 30 000, voire 45 000 victimes parmi les musulmans. Mmh. Il y a aussi des chiffres qui parlent des victimes européennes. Elles ne sont pas très exactes. Certains, enfin, en Algérie, on parle de 27, mais j'imagine que ce n'est pas assez objectif, ce n'est pas assez exact. Voilà.
Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut le dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Jules Ferry, débat parlementaire, le 28 juillet 1885.
Et de suite de ces événements, qu'est-ce que c'était les mouvements?
Alors, suite à ces événements-là, il y a des mouvements de libération. Il y a donc le MNA de Moussa Lelhaj qui s'est formé dans la foulée. Et puis le FLN aussi. Il y a eu l'UDMA, l'Union démocratique du manifeste algérien. Oui, le déclenchement de la révolution algérienne a été décidé à Alger lors de la réunion des 6 chefs du comité révolutionnaire. Enfin, c'est une unité d'action qui était dirigée par le Front de Libération nationale. Les 6 chefs qui ont décidé ce déclenchement des hostilités de 45 sont assez très très même connus en Algérie: Rabah Bitat, Mustapha Ben Boulaïd, Dedouch Mourad, Mohamed Boudiaf et Kerim Belkacem El Arabi Ben Mehdi. La déclaration du 1er novembre a été émise par une radio tunisienne et dans la nuit le 1er novembre 1954 fut lancé le premier tir de la guerre de révolution.
Oh, qu'est-ce que c'était les événements qui s'est passé le premier
Le premier, c'était ça. C'était d'abord dans les casernes. Il y a eu des massacres dans une caserne dans l'est de l'Algérie où les militaires algériens, les révolutionnaires algériens avaient massacré et attaqué une caserne française où il y a eu beaucoup, beaucoup de morts. من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا لنستقل ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا يا بلادي يا بلادي.
complément, en fait, sur le code de l'indigénat, l'État français a mis en place le code de l'indigénat d'abord en Algérie, et c'était notamment ce qu'a dit Myriam sur la loi coranique, mais aussi il y avait une différence de droit civique et un système policier et juridique différent. Donc, c'est-à-dire que le droit civique, les indigènes des musulmans, ils n'avaient pas, derrière les Français musulmans ou les indigènes musulmans, ou, je ne connais pas très bien tous les termes exactement, ils n'avaient pas le droit de s'associer, ils n'avaient pas le droit de vote, ils n'avaient pas le droit de se rassembler, ils avaient souvent des couvre-feux, des trucs comme ça en fait. Parce que là, il y avait une spécificité par rapport aux femmes, mais aussi tout le peuple algérien, il avait des droits différents des Français. Voilà, c'était un peu pour recontextualiser. Et à chaque fois, ça a évolué selon les insurrections qu'il y avait en Algérie jusqu'en 1945, quand il a été supprimé.
Avait pris un rôle très très important, donc en assurant plusieurs rôles. Mais il faut savoir que la femme participait à la résistance depuis 1830 en hébergeant les révolutionnaires, en leur faisant à manger. Elle participait d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai qu'à partir de 1954, son rôle devenait un peu plus important. Donc elle jouait le rôle où elle assurait donc la liaison entre les révolutionnaires, où elle approvisionnait par exemple les maquis, dans les maquis, ou alors elle a même été jusqu'à poser des bombes dans des cafés algérois.
C'était quoi l'intérêt de la FLN d'avoir les femmes travailler avec eux?
Il faut savoir, il y avait certaines femmes qui étaient vraiment des militantes qui œuvraient pour la libération de l'Algérie, mais il faut dire que bien sûr la FLN voulait faire participer la femme, peut-être pour son image, mais peut-être en utilisant aussi la femme. Et aussi peut-être pour faire participer les femmes dans ce combat-là. Donc il y a peut-être trois visions différentes, mais qu'on peut voir aussi ensemble et les lire de cette manière-là.
Mmh. Et dans quelles conditions a-t-elle assuré ces rôles?
Eh bien, l'implication de la femme dans les instances, donc dans la lutte armée, a été très très encadrée. On leur avait confié des rôles, des tâches un petit peu traditionnelles quand les femmes travaillaient dans des maquis, un peu plus importantes dans les grandes villes, à Alger, à Nabat, à Oran, où elles pouvaient jouer le rôle de dans la transmission des messages, des enveloppes, la réception donc des gens qui venaient d'ailleurs pour qui aidaient les Algériens, et aussi dans ce qu'on appelle les poseuses de bombes. Donc c'était un peu le rôle principal de certaines femmes durant cette époque-là, durant cette période.
Et maintenant on va écouter le témoignage. C'est un entretien avec Fatma Baïchi, enregistré par Jamila Amran, en 1980. C'est une traduction.
J'étais orpheline de père. Ma mère avait une soixantaine d'années. Elle ne pouvait pas travailler et j'avais trois frères. Je faisais de la couture à la maison pour aider. J'étais toute jeune, mais je brûlais du désir de militer. C'était les chants patriotiques que j'entendais à la Casbah, les tracts que j'avais lus qui m'y poussaient. Je me rappelle quand il y avait des fêtes, mariage, baptême. Il y avait un orchestre dans la cour centrale des maisons. Et toujours à la fin ou à mi-temps, ils arrêtaient tout, se levaient pour faire une minute de silence pour les morts de Sétif et de Guelma de 1945. Puis il y avait des chants patriotiques. À la Casbah, tout le monde était nationaliste, dans le sang. Des hommes montaient la garde dehors la nuit. Mes frères me ramenaient toujours des chansons, des tracts. Je les lisais, les apprenais. Je me rappelle même, j'étais jeune. Il y avait une espèce de garage juste en face de l'école. dans lequel des communistes faisaient des discours. En sortant, je voyais le rideau baissé, un homme debout qui surveillait. C'était un quartier habité par des Français. Dès qu'il reconnaissait quelqu'un, il lui disait « Baisse la tête et rentre ». Il y avait toujours un Français et parfois un Algérien. Moi, j'étais curieuse et je lui ai demandé « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« C'est un discours pour la patrie. Tu veux écouter, ma fille ?» J'ai dit « Oui ». Et avec mon petit cartable, je rentrais et je comprenais ce qu'il disait. Il parlait en français. Parfois, il y avait une petite traduction en arabe pour expliquer à ceux qui ne comprenaient pas. C'était toujours plein. Lorsque je sortais, il me demandait « Tu as compris, ma petite fille ? Il ne faut le dire à personne. » J'ai compris. Quand est la prochaine réunion ? Eh bien, j'y allais. Une fois, mon frère m'a vu sortir de là-bas. Il m'a battue et m'a ramenée par maîtresse jusqu'à la maison et a dit à ma mère « Elle fait de la politique. Tu vas voir, ils vont l'emmener en prison. » « Et pourquoi y vas-tu ? Je t'ai vu entrer, lui ai-je dit. Moi, je suis un homme. » Il n'y avait pas de femme, quelques enfants, c'est tout. J'ai grandi un peu et on m'a mariée à l'âge de 16 ans. Au bout de quelques années, j'ai divorcé. Je n'avais pas eu d'enfant. En 1954, lorsque la révolution a commencé, nous étions tous contents. À l'époque, nous étions tous messalistes. On nous expliquait que Messali voulait faire ça politiquement. Mais pour libérer un pays, la politique ne suffit pas. Il faut les armes. Si tout le peuple ne s'élève pas méchamment, il n'y a pas de liberté. De messalistes, nous sommes devenus FLN. Messali, pour moi, était l'homme qui voulait libérer son pays. J'étais jeune à l'époque. Je parle d'après mon esprit de jeunesse. Il voulait s'entendre amicalement avec la France, lui faire comprendre que l'Algérie est aux Algériens, que la France pouvait rester, mais qu'il fallait nous donner nos droits. Il luttait pour l'indépendance, mais c'était inutile, la France le faisait marcher. Au début, on avait peur, on avait la trouille à chaque attentat. C'était de petits attentats, une bombe dans une boîte de sardines qu'on jetait, un coup de couteau. Mais on discutait, on écoutait la radio du Caire. Cela nous chauffait le sang. Je ne m'entendais pas avec mes deux grands frères. C'étaient des garçons fiers. Ils ne tenaient pas compte de moi. Mais le petit, je pouvais l'influencer, il avait 15 ans. Nous voulions militer, mais nous avions peur. Nous habitions à cette époque à Saint-Eugène, entourés de Français. Je lui disais, tu vois, l'Algérie va se libérer et nous, nous n'aurons rien fait. Essaye de prendre un contact. Moi, je ne pouvais pas, je ne sortais pas. Les voisins étaient des gens tranquilles, des peureux. D'ailleurs, ils le sont encore. Personne n'était au courant. Finalement, il a contacté un jeune voisin, un gosse de 17 ans. Il m'a fait contacter par Mohamed, un ancien boxeur. J'avais des rendez-vous auxquels mon frère m'amenait. Je sortais, soi-disant, faire des courses avec mon frère. Nous nous rencontrions dans un jardin près de la plage Padovani. Mon frère se tenait à l'écart. Je devais aller chercher des tracts à la Casbah et les distribuer à des gens de confiance. Un ancien voisin de la Casbah, de l'âge de mon petit frère, venait chez moi pour m'emmener à la Casbah, voilé, chercher des tracts. Je les distribuais à des gens que je connaissais à Saint-Eugène, à Couba. Ensuite, je ramassais les cotisations de ceux qui voulaient bien cotiser, 1000, 2000 francs par mois. J'avais une amie, Fatima, 40 ans, qui était femme de ménage à l'ambassade américaine. J'avais raconté mes activités. Elle aussi était amoureuse de la patrie. Elle a voulu participer, elle cotisait, distribuait des tracts. Une fois, elle m'a raconté qu'une ancienne amie lui avait demandé de cacher son fils. Un fidèle recherché, une tête brûlée. Et comme elle habitait avec des Français, elle avait peur et avait refusé. C'est un tueur. Il a fait des attentats. Je lui ai proposé de le cacher chez moi. Mes frères étaient d'accord. Il est venu chez nous, comme si c'était un cousin. Son nom de guerre était Mano. Il est resté chez nous une quinzaine de jours, puis il est monté au maquis, où il est mort. Il me racontait les coups qu'il faisait. Je ne voulais pas. Ne me raconte plus, Mano, ne me raconte pas. On ne sait jamais, peut-être vais-je être arrêtée. Ils vont me torturer. Je vais être obligée de parler de choses que je ne devrais pas savoir. En février 1957, pendant la grève des 8 jours, tout le monde a été arrêté. Je n'ai pas honte de le dire, j'ai eu peur. Du groupe, je ne connaissais que Mohamed. Ils ont tous été arrêtés, l'un montrant l'autre, avec les tortures. J'étais la seule à ne pas être arrêtée. Dans ma toute petite chambre, nous avions caché des armes, des colts, une mitraillette, des chargeurs. Au début, je les cachais sous le matelas, dans le tiroir de ma commode, sous le linge. Saïd habitait dans la haute Casbah. Un jour, Thomas est allé prendre une bombe chez lui, mais au moment du réglage, la bombe a explosé. Le régleur, Berazouane, est mort. Mais Saïd et Ftoma ont réussi à se sauver. Ils se sont cachés 2 jours chez une amie de Ftoma, mais elle avait peur et ne voulait pas les garder. Des frères avec lesquels Saïd était en contact en ont parlé à mon frère, qui a tout de suite proposé qu'ils viennent chez nous. Ftoma, a-t-il dit, serait une amie de ma sœur et Saïd son fiancé. Le mari de Ftoma était déjà en prison. Ils sont donc venus chez moi. Puis il y a eu un troisième, Ali. Dans nos 2 petites pièces, nous sommes restés ainsi. Eux 3, ma mère, mes 3 frères et moi. Saïd restait tout le temps enfermé. Il avait peur. Ils attendaient de pouvoir partir au maquis. Saïd, Ftoma et Ali. Le petit Ali n'était pas plus âgé que mon frère Salim. Au bout de 12 jours, il a décidé de partir au bled. Il avait déjà été arrêté et torturé, et il ne voulait pas être arrêté de nouveau. Ali était parti. Il était kabyle. Il a dit qu'il irait chez ses oncles en Kabylie et qu'il le ferait monter au maquis sans attendre les papiers. Saïd, Ftoma et son bébé sont restés. Il y avait eu beaucoup d'arrestations. Il fallait rester sans bouger et attendre. Mes voisines m'ont aidée. Myriam, par exemple, m'aidait à cuisiner. Elle faisait comme si elle ne se doutait de rien, mais elle savait. Ouria avait été arrêtée en même temps que Sivodil et Sibouzid, qui sont morts sous les tortures. Ouria avait accepté de faire le double jeu et elle avait été relâchée. Un jour, elle est venue chez moi. Elle est venue, envoyée sans doute par les militaires. Mon frère et moi avions caché les armes dans un pot de fleurs. Nous avions fait une grande caisse à double fond. On y a mis les armes et par-dessus on a mis la terre et les plantes. Il y avait même un petit revolver 6.35 qui était à mon frère. On avait tout mis ensemble. On a donc tout donné à cette femme et elle est partie. Juste quand Salim, mon frère, Saïd et Tahar sortaient, la maison a été encerclée. Les militaires et les civils de la DST sont entrés. J'étais dans la cour. Ils m'ont demandé où j'habitais, et lorsque je leur ai dit, ils ont dit « C'est Exa, en face des escaliers, c'est elle. » C'est Ouria qui a dû leur donner le signalement. Ils m'ont attrapé par les cheveux et j'ai commencé. « Sale race, sale pourriture, criminelle. Vous parlez de Felaga, c'est vous les Felaga. » Ils me donnaient des gifles, des coups partout, ils me frappaient partout. Et ils ont commencé. L'armoire a été renversée par terre. Tout ce qui était dedans était vidé. « Où sont les armes ?» demandait-il. « J'ai été torturée à mort. Ils m'ont torturée à la baignoire, tu sais, les mains et les pieds attachés. Je ne pouvais plus parler. Le capitaine me disait « Ah, grande Felagate, le FLN peut compter sur toi. Et avec toutes ces tortures, tu n'as rien dit. » بلدي وفداها ألف ألف شهيد ألف ألف شهيد
أعيادك بالفرحة جديدة تجمعني معاك يا بلادي
لياليك سعيدة محلاكي محلاكي أعيادك بالفرحة جديدة تجمعني معاك
سمعني الدنيا قريبة قريبة بعيد سمعني الدنيا قريبة قريبة بعيد
Et parmi ces figures féminines de la Révolution, on compte des femmes comme Jemila, Asiba et bien d'autres. Peut-on se voir un peu plus sur elles et combien elles étaient dans ce combat?
Oui, le chiffrage d'après un document de Jemila Amran, donc moi j'avais lu qu'il y avait à peu près 2000 femmes. Il y a une surtout qui est très emblématique, enfin qui représente le combat des femmes algériennes, c'est Jemila Bouheb, donc qui a rejoint le Front de Libération Nationale durant ses études, et elle a travaillé comme officier de liaison entre les membres de ce réseau-là, le réseau des bombes, et elle était aussi l'assistante personnelle de Yassif Saadi, qui était le chef de la zone d'Alger, et donc elle a beaucoup travaillé pendant la bataille d'Alger, et elle a déposé des bombes, et là où elle a été condamnée, donc c'était en 1956, le 30 septembre exactement, et il y a une bombe qui a explosé dans le hall de Mauritania, là où elle a recruté donc Jemila Bouazza, et qui a déposé elle-même, donc le 26 janvier suivant, une bombe qui a fait plusieurs morts parmi les Européens. Donc en 57, elle a été blessée dans une fusillade et elle a été capturée et par des parachutistes français, et parce qu'elle a été soupçonnée bien sûr d'être derrière cette opération. Bon, elle a été inculpée par les Français, et elle a été torturée, énormément torturée dans les prisons, et puis il y avait donc une exécution qui était prévue pour elle, mais elle avait des soutiens un peu partout dans le monde, et surtout en France. Mm-hmm. Et elle a eu Jacques Vergès comme avocat, qui est devenu plus tard son compagnon. Je pense que c'est à travers la vie de Jemila Bouheb que les Français commençaient à se rendre compte de ce qui se passait en Algérie. La torture, les prisons, enfin, l'opinion publique commençait à avoir une idée sur ce qui se passait réellement en Algérie. Donc il n'y a pas que Jemila Bouheb, il y a Hasiba Ben Bouali aussi, qui est une militante, une résistante algérienne, qui a participé à la bataille d'Alger aussi, aux côtés de Ali Lapointe, dans le film qu'on pouvait voir, la bataille d'Alger, aux côtés de le petit Omar. Donc c'est une femme qui était assez, qui avait des convictions, qui a beaucoup travaillé pour la libération de l'Algérie. Et donc elle faisait ses études à l'ASNA, mais devait déménager à Alger pour continuer ses études.
Et c'était quoi les combats et les convictions de ces femmes?
Ces femmes-là étaient convaincues qu'elles devaient, elles étaient là pour la libération de l'Algérie. Elles avaient des convictions, bien sûr, politiques, elles, comme les hommes, donc elles pensaient aussi à leur liberté, à leur émancipation. Et quand je disais, enfin, il y avait des mouvements de libération dans le monde entier, donc l'Indochine, et puis pour l'Algérie, donc la Tunisie et le Maroc étaient déjà, et qui étaient entre. Sous protectorat français, mais il n'y avait pas de colonisation, mais ils étaient déjà indépendants. Donc il y avait des exemples tout autour qui amenaient les Algériens à se soulever et à combattre pour la liberté.
Et est-ce que tu peux nous dire un peu de la vie de Jamila Amaran?
Eh bien, moi, je suis ravie de parler d'elle parce que c'est une femme qui a écrit, qui a écrit beaucoup sur le combat des femmes algériennes donc, durant la guerre. Et en plus, ça, c'est une autre image. Donc, on voyait tout à l'heure les deux exemples que je viens de citer, Hassiba Ben Bouali et Jamila Bouhed. Et là, on a Jamila Amran qui est en réalité, elle s'appelle, pour voir que, voilà, que même les Français pouvaient, enfin, sont venus et ils ont aidé les Algériens dans leur combat, avec des convictions pareilles. Donc, qui est Danielle Mine, deux parents français, qui se sont installés en Algérie, je pense, en 1945. Et dès l'âge de 16 ans, Jamila Amran commençait donc à aussi poser des bombes dans des cafés très très jeune, et puis pareil, elle a été donc condamnée, a fait de la prison entre 1957 et jusqu'à l'indépendance de l'Algérie en 1962, où elle a été graciée. Voilà, l'indépendance, c'est une femme qui est restée, qui a demandé à être algérienne, elle est restée algérienne, elle a vécu en Algérie jusqu'à ce qu'elle revienne en France beaucoup plus tard.
Tu peux parler un peu de Malika Gaïd?
Oui, alors Malika Gaïd, c'est une martyre de la guerre d'Algérie. Elle est née en 34 à Belcourt, donc à Alger Centre. Elle a fait des études. Elle est devenue une des plus grandes figures de la résistance des femmes durant la révolution algérienne. Et elle est parmi celles qui ont vraiment sacrifié leur jeunesse pour un idéal, pour la liberté, donc la justice et la dignité. Donc le plus important, donc ces femmes-là, elles ont œuvré dans un cadre bien défini, donc elles étaient dans l'armée de libération nationale, mais il faut savoir qu'il y a d'autres femmes qui participaient avec d'autres manières, donc en logeant les révolutionnaires, en faisant autre chose, beaucoup de femmes qui ont travaillé pour la guerre de l'Algérie. Pendant la guerre, comment la société algérienne voyait ces femmes?
Est-ce qu'elles étaient considérées des héros aussi bien que les hommes, ou elles étaient juste invisibles parce que tout le réseau était invisible?
Non, elles n'étaient pas invisibles. Mais non, tout se faisait en cachette. On ne savait pas, sinon c'était fini pour elles. Elles ne pouvaient pas dire, voilà, moi j'ai fait ça. Enfin, le réseau était très fermé, tu vois, ça restait très, très, très fermé. Les femmes, quand elles posaient des bombes, elles n'allaient pas dire, ouais, j'ai posé une bombe. Enfin, il y avait des militaires. Oh, oui, il y avait des couvre-feux. Il y avait, après, oui, là, c'était, quand c'était déclaré, c'était beaucoup plus difficile de parler de ça. Ma mère, elle avait des ordres. Hein, c'était pas elle aussi. Hein. C'est la femme de son oncle qui disait, il faut que tu prêtes du pain pour les révolutionnaires à tel endroit, à prendre des enveloppes. Enfin, c'est pas... Pour certaines, c'est vrai que c'était un combat personnel, mais pour d'autres, non. Elles exécutaient. Elles n'avaient pas le choix. Il fallait. Ben sinon, parce qu'à cette époque, c'était vite. Tu fais ça ou sinon, t'es traître. Eh bien oui, c'était ça. Hein. Enfin. Voilà, mais ma réponse, elle n'est pas construite. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon avis.
Thank you. tendance, il y avait Thomas, Saïd et moi. Ils m'ont confronté avec Sibouzid, que je ne connaissais pas. J'ai pleuré quand je l'ai vu, le pauvre. Il l'avait tout lacéré avec une lame gilette. Il était presque nu, attaché. Je lui disais, n'aie pas peur mon frère. Ils ont cru que j'étais sa maîtresse, alors que je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais vu. Sifodil, c'est pareil. Ils nous ont confrontés, mais je ne le connaissais pas. J'étais dans un état lamentable. Mes vêtements tout déchirés, car je n'avais pas voulu me déshabiller. Eux aussi, les pauvres, étaient dans un état effrayant. Ils m'ont gardé 4 ou 5 jours. Le lendemain, ils ont amené Fela. Elle aussi a été torturée. Elle était dans la chambre du capitaine, et moi j'étais couchée par terre, dans le couloir. Je ne pouvais plus parler, j'étais comme étranglée. Ils pensaient que j'allais mourir. J'entendais Fela crier quand ils la torturaient. Elle criait toutes ses forces, la pauvre. Au bout de 8 jours, ils m'ont fait sortir sur la terrasse. Mes 2 grands frères avaient été arrêtés. « Mais ils ne savent rien !» je leur criais. « Il n'y a que moi et mon petit frère qui étions au courant pour les armes. »« Alors, pourquoi n'êtes-vous pas venu nous le dire ?»« J'avais peur, si je vous le disais, que vous ne me croyez pas et que les autres me tuent. »« Alors je n'ai rien dit. »« Mais je n'ai rien fait, rien fait. » Il y avait un para qui m'a dit « Tu sais que tu me fais de la peine. »« C'est sincère ce que je te dis. »« Tu me rappelles un visage qui m'est très cher, celui de ma sœur. » Quand il te torturait, je voulais éclater. J'avais l'impression que c'était ma sœur qui le torturait. Mais je ne peux rien faire. Mais n'aie pas peur, ils vont t'emmener dans une villa à Saint-Raphaël. Ils m'ont couvert les yeux et m'ont emmené la nuit, à 1 heure, dans une villa. Ils m'ont jeté dans une cave, je suis restée 1 semaine. Ils amenaient des indicateurs pour me reconnaître. Grâce à Dieu, personne ne m'a reconnue. Je dormais sur le sol, puis ils m'ont donné une couverture. Une nuit, à 2 heures du matin, ils m'ont amenée à la maison. Je riais, c'était nerveux. Je voulais montrer à mes frères libérés le même jour et à la mère qu'il n'y avait rien. Le capitaine m'a dit « En échange de tout ça, si par hasard ton frère Salim vient, essaye de voir où il va et s'il reste, écris-moi. » Je lui ai dit « Oui, oui, mon capitaine, s'il le mérite, tant pis pour lui. » Je suis restée 2 jours sans manger, je n'y arrivais pas, ça ne rentrait pas. 2 jours après, Saïd et Ftoma avaient été relâchés. Ils avaient tenu le coup, ils n'avaient rien dit. Ftoma relâché avait contacté des frères à El Arash. Saïd, lui, ne savait pas où aller. Il est retourné chez lui, là où avaient éclaté les bombes. Il l'attendait. Ils l'ont arrêté 1 deuxième fois. Il a donné tout le monde sous les tortures. Il est devenu comme fou. Il donnait tout le monde, même ceux qui n'avaient rien fait. Ils sont venus avec un homme qui portait une cagoule. Ma mère a cru que c'était son fils, Salim. Elle a crié « Oh mon fils, ils t'ont amené pour te tuer devant moi !» Mais j'ai reconnu Saïd. Il avait des dents en or, il m'a dit doucement « Fatma, ma sœur, n'aie pas peur, je ne te vendrai pas. » Mais c'était déjà fait. Il était attaché par les pieds avec une corde, ils ont tiré la corde, il est tombé par terre. Ils lui ont donné des coups de pied, il s'est relevé le pauvre, ils l'ont giflé. J'ai été emmené à l'école Saroui. Ils m'ont déshabillé, ligoté dans un voile qui avait été laissé là par je ne sais quelle femme. Ils m'ont mouillé, ils ont versé un seau d'eau et m'ont passé à la Gégène, 1 fois, puis 1 deuxième. Il y avait un tortionnaire, torse nu, qui torturait. Le capitaine, qui m'avait arrêté la première fois, est entré et m'a vu. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Ils lui ont montré le dossier, transport d'armes, hébergement. Les tortures. Un frère, il l'appelle, il est comme un lion. Quand il redescend, on ne le reconnaît plus. Il se traîne, il se met dans un coin. C'est atroce. Trois jours après, ils ont arrêté mon frère. Nous avons été amenés à Ben Aknoun. Il y avait un camp. Nous sommes restés 25 jours dans ce camp. Il y avait Goussem, Fadila, Latifa, Gania, Akila et d'autres. Nous étions 22 femmes dans un dortoir. Dans ce camp, on était encore interrogés, tantôt par la DST, tantôt par les gendarmes, tantôt par les bérets rouges. Cela changeait. Mais ce n'était pas comme à l'école Saroui. C'était simplement des gifles, des coups. Il faisait venir des hommes à cagoule qui passaient, regardaient tous les prisonniers et en désignaient certains qui étaient tout de suite emmenés pour les interrogatoires. Nous n'avions rien, pas de couverture, rien. Une salle cimentée. Nous nous bagarrions pour des bouts de papier qu'on mettait sous la tête comme oreiller, c'est tout. La nuit, parfois, ils amenaient des hommes à cagoule. Ils nous éclairaient avec des projecteurs et demandaient « Tu reconnais celle-là ou celle-là ?» Un CRS est venu me voir, mes habits étaient tout déchirés. Il m'a dit que je lui faisais de la peine, m'a demandé mon adresse pour aller me chercher des vêtements. Je lui ai donné un petit mot, il est allé. Personne n'a voulu le recevoir. Il avait peur, il a insisté. Il a montré le mot et il m'a ramené une tenue de rechange, pour moi et mon frère. J'avais pensé à mon frère et j'avais demandé du linge pour lui aussi. J'ai été emmenée avec mon frère à Birtraya. J'ai été mise dans une petite cellule. J'étais toute seule. Il n'y avait rien. Je dormais par terre. Je n'ai pas été torturée, des tortures morales, des interrogatoires sans fin. 3 ou 4 jours après sont venus Huguette et Fatma Zora. Je sortais une fois le matin, une fois le soir pour aller aux toilettes, c'est tout. Huguette avait été torturée, elle disait « Vous m'avez arrêtée parce que je suis communiste ? Oui, je le suis, et vous ne pouvez rien y faire, c'est dans le sang. » Je lui disais « Ne dis rien, laisse ça dans ton cœur. Quand tu seras libre, tu pourras le crier. » Mais elle ne voulait pas. Je dormais par terre, il y avait des rats, j'étais sale. Ils venaient dans mes cheveux, je les chassais. Ils revenaient. 2 jours avant qu'on libère Huguette et Fatma Zora, un capitaine est venu en inspection et nous a demandé si on était bien. Huguette a protesté, parce qu'on dormait par terre, sans couverture, sans rien. Il a ordonné qu'on nous donne une couverture chacune. Je me sentais bien avec cette couverture. J'ai passé ainsi 3 mois, à l'école, entre l'école Saroui, la villa à Saint-Raphaël et les camps. Puis, en septembre 57, j'ai été emmenée à Sarkadji. À Sarkadji, j'étais contente. J'ai retrouvé les sœurs, j'ai rendu grâce à Dieu. Je n'avais plus peur, car il n'y avait pas de torture. J'ai retrouvé Ftoma, que je connaissais déjà, Zizou et d'autres. C'était au moment de la sieste, je me rappelle. C'était l'après-midi. Elles m'ont donné du café, j'ai fait la connaissance des autres sœurs. J'étais dans le dortoir 2, j'étais dans un coin, je suis restée 7 mois en prison. Le plus terrible à Sarkadji, ce sont les exécutions. J'étais dans le dortoir le plus proche de la porte, et quand je ne dormais pas, j'entendais, à cause du gros tuyau qui passait près de ma paillasse, le grincement du portail qu'on ouvrait. Alors je savais. Je commençais à trembler, je réveillais les sœurs. Après, on entendait crier, le Tchahid. Dieu est le plus grand, vive l'Algérie. Et tous les frères répondaient. Vite, on se levait, on s'accrochait aux grilles, on grimpait les unes sur les autres, pour arriver au tambourin, et on chantait des Nachid. De nos montagnes, mes frères, n'oubliez pas vos martyrs, et de nombreux autres. Il y avait des filles qui s'évanouissaient, certaines faisaient même des crises cardiaques, comme Colette Chouraki, d'autres pleuraient. Tout de suite, le hall se remplissait de CRS avec leurs matraques. Ils voulaient nous faire taire, nous leur jetions tout ce qu'on trouvait. Des quarts de chaussures, des morceaux de savon noir, de l'eau de Javel. Ils essayaient de nous taper avec leurs matraques. Ils demandaient les clés aux surveillantes. Donnez les clés qu'on rentre pour les mater. Elles ne voulaient pas. Après chaque exécution, nous refusions la nourriture, nous faisions le ramadan. Pour celles qui ne croyaient pas, c'était la grève de la faim. J'ai eu 5 ans avec sursis. Je suis sortie, mais j'ai été emmenée au camp de Beni Messous. J'ai encore été interrogée. Ils avaient un gros chien loup. Ils voulaient me faire dire que je regrettais, que j'étais avec la France. Mais j'ai dit que j'étais avec le FLN. Encore plus après avoir été arrêtée. Je suis restée 15 jours à Beni Messous. J'étais la seule femme. Il devait y avoir 600 frères. Ils me gâtaient parce qu'ils recevaient le panier. La visite était tous les 15 jours. Après, ils m'ont envoyé à Tefeshoun. Il y avait 200 femmes de tous les coins de notre pays. Certaines n'étaient jamais sorties de leur village, n'avaient jamais vu la mer. Tefeshoun est située au bord de la mer. Elles nous disaient « C'est pour nous jeter à la mer qu'ils nous ont amenés ici. » Elles arrivaient directement des lieux d'interrogatoire, de torture. Leurs vêtements étaient déchirés, certaines avaient la tête rasée. À leur arrivée, on demandait de grandes cuves pleines d'eau chaude à la cuisine et on les aidait à se laver. On leur préparait du linge. Après, on lavait et reprisait leurs vêtements. Si tu savais ce qu'elles avaient passé, pour chaque femme, tu pourrais écrire un livre. On demandait à l'administration l'adresse de leur famille. Elles étaient analphabètes, et on leur écrivait des lettres. Elles recevaient du courrier et des colis. Parfois même de France, où elles avaient de la famille. Elles étaient contentes. Il y en avait de partout. De Kabylie, des Aurès, de Magna, de partout. Il y avait 2 dortoirs de 100 lits chacun. C'était des longs dortoirs avec de chaque côté 25 lits, plus 25 superposés, soit 50 par côté et au milieu une longue table avec des bancs et une porte de chaque côté. À un bout, il y avait une petite cour avec une rigole. On a fait une plateforme en pierre devant la porte pour que la boue n'entre pas. Et de part et d'autre, on a fait un petit jardin. Une surveillante nous a apporté des graines que nous avons plantées. Les gueules de loup montaient au ciel. Il y avait des marguerites, c'était tout fleuri. Tous les matins, on lavait les dortoirs, c'était très propre. Nous avions demandé des draps à nos familles, et toutes celles qui ne savaient pas avaient appris à faire soigneusement leur lit. Puis on déjeunait, ce sont les surveillantes qui apportaient la nourriture, mais c'est nous qui faisions la distribution. Nefissa Laliam lisait le journal en français, une autre traduisait en arabe, puis une autre en kabyle. Toutes restaient silencieuses et écoutaient. Le jeudi soir et le vendredi, on faisait la prière en commun. Asiba nous donnait des cours d'arabe, Ouria et Ratiba donnaient des cours de français. Nous avons toutes appris quelque chose. Celles qui savaient tricoter ou crocheter montraient aux autres. Des surveillantes nous achetaient de la laine. Il y en avait deux qui étaient gentilles, les autres étaient méchantes. Il y avait un service psychologique qui essayait de nous convertir sans résultat. Ils ont construit un bâtiment spécial pour nous isoler. Nous étions 17, mis à part. Notre influence était trop grande. Mais elles continuaient à nous voir. À l'infirmerie, par exemple. Nous sommes restés 9 mois comme cela. Je suis sortie le 9 mai 1960.
الجزائر يا بلادي يا زينة البلدان طلب ربي زل بزلط الرحمن
الجزائر يا الوردة يا زينة البلدان طلب ربي نزل بزلط الرحمن الجزائر يا بلادي يا زينة البلدان طلب ربي نزل بزلط الرحمن
Alors, vous venez d'écouter le témoignage de Fatma Daichi, donc voilà, qui a été lue par une copine et qui a expliqué la torture qu'elle a vécue sous la guerre d'Algérie. Maintenant, en fait, on va un peu parler de ça. Ah oui, et la chanteuse, c'était Hasna El Becharia, et la chanson, c'était Jazir Warda. En gros, c'était mon peuple, l'Algérie, je prie pour que ça soit la paix et que Alger, la blanche, soit plus sanglante, un truc comme ça. Voilà, c'était un peu dans le contexte. Maintenant, on va continuer sur ce thème pas très très joyeux, parce qu'en fait, pendant la guerre d'Algérie, il y a vraiment eu beaucoup de tortures et beaucoup de viols. Et on a trouvé un texte de Raphaël Branche, en fait, qui prend comme axe d'analyse le viol pour analyser la guerre. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Et elle part de son texte à partir de la reconnaissance par l'ONU en 96, d'actes d'une brutalité innommable, tous les viols et abus sexuels qui ont été commis en ex-Yougoslavie de 91 à 95. Et donc elle, à travers cette reconnaissance de l'ONU des viols comme crimes contre l'humanité, elle analyse en fait ce qui s'est passé en Algérie pendant la guerre. Voilà. Et puis après, on a articulé les deux en fait, parce que voilà, c'est dans la continuité du sujet, et puis aussi parce que vraiment il y a eu des actes de torture pendant toute la guerre d'Algérie, et comme elle le racontait, en fait, c'était pour casser le FLN et pour casser la résistance. Et il y a un film, La Bataille d'Alger, qui montre assez bien la pratique des militaires.
Bon, en fait, l'Assemblée générale de l'ONU a défini les viols des femmes comme armes de guerre utilisées de manière délibérée, des fins de nettoyage ethnique, comme une forme de politique génocidaire. Et pendant cette guerre en Algérie, on peut voir que les autorités des politiques et des militaires françaises n'étaient pas très intéressées par les viols. Et aussi, les nationalistes algériennes, elles n'ont pas instrumentalisé les viols pour dénoncer des méthodes de guerre françaises. C'est-à-dire qu'il y avait... Il n'y avait jamais une enquête plus ordonnée par le pouvoir politique par rapport à ça. Et du coup, pour nous, ça veut dire qu'il y a très très peu de matériel d'archives qui existe. Il y a l'archive militaire qui n'est pas du tout accessible aujourd'hui. Aussi, il y a tous les records du gouvernement, mais Mais encore, il y a des sources privées, ça veut dire les témoignages aux gens. Mais quand même, ça, c'est très rare.
Moi, ce que j'aime bien dans son texte, elle écrit, c'est « Les viols restent sans doute largement enfouis dans l'anonymat des violences sous l'effet de ces deux aveuglements croisés. Mm-hmm. » Donc, en fait, il y a l'armée française et l'État français qui, lui, de toute façon, il va se taire, il a tout intérêt. Et puis, la résistance algérienne, les moudjahidines, et le peuple algérien qui se tait aussi, et les femmes aussi.
Mm-hmm. Oui, donc, c'est ça.
Ça fait une double négation.
C'est sûr, c'était un pure violence qui était encaissée en silence par les gens. Mais cette violence sexuelle faite aux femmes algériennes a des multiples spécificités qui permettent d'éclairer un peu plus finement les enjeux de cette guerre. Je veux dire qu'on peut voir par rapport au viol qu'en fait... c'était un arme de guerre qui était portée par les militaires françaises pour vraiment conquérir le peuple algérien, que en fait le femme était vraiment ciblée pour la toucher, pour toucher son corps, mais aussi pour toucher sa famille, son communauté et vraiment plus largement le peuple algérien. C'est un peu ça qui est super flippant par rapport à le viol qui s'est passé en Algérie.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une pulsion sexuelle ou un truc comme ça, c'est vraiment un acte rationalisé qui, qu'on nous a requêté pendant la colonisation pour pacifier le peuple et la résistance, et pendant la guerre d'Algérie, la même en fait.
Le viol était beaucoup employé pour faire souffrir. Je veux dire, c'était une méthode de torture, comme les autres, qui était employée un peu partout en Algérie, dans les régions, dans les différents combats, qui étaient autorisés ou un peu moins par les généraux. Mais avec cette pratique, la pénétration violente se faisait souvent avec un morceau de bois, une bouteille, des autres moyens. Il ne faut pas croire du tout que, en fait, c'était les soldats qui eux-mêmes sont violés et tuent les femmes.
Et dans cette méthode, il y avait aussi les hommes aussi.
Oui, c'est ça. Hein. C'était beaucoup utilisé pour terroriser les femmes, mais aussi pour les faire parler. Mais pour les hommes qui étaient emprisonnés, c'était aussi utilisé pour les faire peur.
Et donc, quel but, un peu ? Si c'était différent de la torture, c'était quoi ?
Dans le viol, le sexe est le lieu de l'entrée, de la douleur, de la souffrance. Le viol est un acte qui reste un peu invisible, mais après, ça touche énormément les victimes et leurs proches. Si les femmes et les hommes peuvent subir, ça signifie la partie symbolique, une partie prenante de l'efficacité criminelle qui est accentuée dans le cas des femmes, parce que le viol attend directement à leur filiation, qui est une idée qui est vraiment très importante dans la société algérienne.
Et aussi, moi, ce que je trouve intéressant, en analysant le viol comme stratégie de guerre et comme dans les rapports de genre, je trouve ça, en fait, c'est pas un acte de pulsion et qui serait fait comme ça, ou comme des fois on peut avoir des imaginaires autour de la guerre où c'est normal, tous les soldats ils vont se défouler. Là, c'est vraiment une stratégie et pour calmer, genre, des endroits où il y aurait trop de résistance. Puis aussi, c'était souvent les généraux, en fait, qui disaient. Là, on encercle un village, on sépare hommes-femmes, et puis les femmes, on leur fait cette torture-là, en fait. On serait dans un socle de torture, un peu, il y aurait le viol, quoi. Et le bâton, je trouve que ça représente vraiment ça. Tu sais, c'est.
Oui, en fait, en Algérie, il y avait beaucoup de lieux qui étaient très différents, et du coup, les généraux, les moments quand ça s'est passé, il y a une grande différence par rapport à comment ça s'est passé, mais largement dans les régions qui étaient constatées par les militaires français d'être les régions avec une rébellion plus forte, souvent le pratique était de vider les villages et mettre tous les habitants dans les camps d'internement. Et c'était là souvent où il y avait vraiment, vraiment beaucoup de viols. Souvent, c'était les soldats qui détenaient les Algériens qui sont perpétués la plupart des viols aussi, je dois dire, étaient commises d'une façon collective, c'est-à-dire qu'il y avait un homme qui tenait une femme et il y avait des autres qui succédaient sur son corps. Après, ils ont infligé des violences à elle ou sa famille, mais ça repose largement sur une logique super raciste que les femmes algériennes étaient un peuple qui pouvait être violé. Mais aussi, il y avait un côté d'une frustration sexuelle chez des soldats françaises. Et c'était un peu accepté qu'ils s'est rendu dans les villages pour violer les femmes. Et c'était considéré quasiment une manière de pacification.
Mais même dans la frustration sexuelle, ce que je vois aussi pour les soldats, comme ils étaient, c'était leur service militaire et qu'ils partaient en Algérie faire leur service militaire, il y avait aussi un truc de baptême en fait un peu. Et là, on va aller se baptiser sexuellement avec la femme indigène.
Pas qui pouvait pas.
Et c'est accepté par les supérieurs. Et c'est l'imaginaire, il est plus comme si c'était c'est comme si c'était sa sœur ou je sais pas quoi, comme un égal en fait. C'était vraiment on s'en fout.
Aussi, je pense que c'était une façon de pacification des femmes pour les montrer. Vous les Algériennes, vous n'allez pas vous combattre contre nous, parce que c'est ça ce qu'on veut vous faire. C'était pas qu'un moyen de faire calmer des soldats. Mais parmi tous ces viols, on peut voir deux grands types de viols. Il y avait le viol prémédité, c'est-à-dire les petits groupes des hommes s'est rendus dans des villages dans la nuit. Ces crimes restent largement inconnus aujourd'hui, puisque la seule façon qu'on peut le savoir, c'est si par rapport à les très très peu plaintes qui étaient portées par les victimes. Et elle va faire quoi? Elle va porter plainte à les militaires contre les militaires.
Et dans la société, en fait, elle se passait comment par rapport à leur frère ou à leur mari ou à leur père ou aux autres femmes?
Il y avait des réponses très diverses et variées partout en Algérie. Il y avait des régions où les femmes étaient, si une femme mariée était violée, elle était divorcée direct. Si une jeune fille était violée, elle était considérée plus une vierge, du coup, elle pouvait plus être mariée. Mais dans des autres régions, les femmes qui étaient violées, elles restaient avec le mari, ou les jeunes filles, elles étaient mariées en super vitesse pour pouvoir les intégrer dans une société qui les accueillait. Mais aussi, il y avait des viols opportunistes, et c'est-à-dire, c'était la plupart des viols accomplis pendant la révolution algérienne. Et ça, c'est un truc surtout, on doit imaginer vraiment que tous ces viols s'est passé en relation avec le fait que il y avait des enterrements où c'était les militaires français qui entouraient les peuples algériennes, et c'était tous ces viols étaient faits dans un confort matériel, puisque c'était une armée d'occupation qui était vachement supérieure en moyenne.
Et aussi, il y avait un truc qui se rejoignait aussi sur la domination sur la femme. Au début, les femmes en fait algériennes pendant la guerre, elles étaient perçues comme femmes de résistants. Donc en fait, ils les fouillaient intégralement, ils regardaient leurs pubis pour voir si elles étaient rasées ou pas, pour voir si elles avaient toujours des relations sexuelles avec leur mari qui pouvait être au maquis. Et après, elles étaient considérées comme ennemies. Et dans tous les cas, de toute façon, elles étaient violées, mais en plus, quand elles étaient ennemies, là, il y avait le truc vraiment de lui faire peur, en fait, et lui dire, là, tu transgresses ton rôle. C'est-à-dire, quand t'es femme d'eux, on va faire pression sur ton mari, mais là, on va faire pression sur toi, puis en plus...
Non, c'est vrai, pendant cette guerre, de la femme, dans la guerre, a beaucoup évolué. Pour dire un exemple, les femmes, elles cuisinaient, mais pendant la guerre, elles ont commencé de sortir pour faire les courses. Ça, c'est un exemple stupide, mais c'est juste que petit à petit, elle a commencé de prendre une rôle qui était beaucoup plus important.
Mais même à partir, je crois, de 57, l'armée a créé une section spéciale de centre d'hébergement de Téchefoun pour justement regrouper les femmes, et où elles ont subi vraiment plein de violences pendant leur arrestation, leur détention. Et
il y avait vraiment beaucoup de viols qui s'est passé en prison, dans des hôpitaux, des trucs comme ça. Mais aussi, je pense que c'est super important quand on peut regarder juste un petit peu les objectifs des chefs des forces armées, que c'était eux qui ont vraiment autorisé implicitement, explicitement le fait que ces viols s'est passé. Souvent, c'était pour represser une certaine région qui était en rébellion, mais aussi s'ajouter aux manières de faire les guerres. De fait, dans cette guerre, c'est pas que les combattants ni les armées de frontières qui étaient visées, mais c'était la population algérienne, puisque en vrai, le viol occupe une place très particulière.
Il y avait deux citations aussi que tu avais de deux généraux là qui avaient démissionné. Mm-hmm. Où il y en avait un qui s'appelle, je sais pas comment il s'appelait, mais il avait demandé d'être relevé de ses fonctions parce qu'il n'admettait pas l'utilisation de la torture et que lui, il s'était combattu contre l'occupation allemande et que là, c'était la même reproduction. Mm-hmm. Et il y a un autre général qui, pareil, et on les cite pas pour dire waouh, c'est trop fort, des militaires, ils vont arrêter de faire leur torture, juste pour montrer l'ignominie de ce qui se passait pendant la guerre d'Algérie. Moi, c'est plus ça qui. C'est plus des citations comme ça pour un peu vraiment prendre conscience. Mm-hmm.
Oui, je pense que sur la question de la torture, dans la région kabyle, il y avait des consignes qui étaient données aux femmes, les dirigeants de la FLN qui ont dit que ne pas parler de ces choses et ne pas laisser croire à l'ennemi qu'elle a touché le char vif de l'âme kabyle, si l'on peut dire, de se comporter en vrai patriote qui se borne tout à la libération de la patrie enchaînée. Et c'est-à-dire que dedans, on peut voir le côté psychologique de ces vieux qui approchent énormément le côté, un aspect de torture.
En 1961, ma famille m'a mariée avec un voisin. C'était un mariage traditionnel. Après l'indépendance, je n'ai pas travaillé et je n'ai pas pu militer. Mon mari m'a empêchée de sortir. Même les sœurs de combat, je ne pouvais pas aller les voir. Pendant la Révolution, ma mère ne voulait pas que je milite. J'ai milité quand même. Mais mon mari, il y avait les enfants. Et puis même mes frères, même le plus jeune avec lequel j'ai milité pendant la guerre, encourageaient mon mari à ne pas me laisser sortir. C'est fini maintenant, il ne faut plus la laisser sortir, ce n'est plus comme avant. Ce n'est que lorsque mes filles ont grandi que j'ai pu sortir librement. Avant, mon mari était jaloux. Jusqu'en 1972-73, je ne sortais pas. J'ai commencé à sortir pour des soins médicaux, mais toujours accompagnée par mon frère. Puis petit à petit, je suis sortie librement. Maintenant, mon mari est fatigué. Il me laisse sortir librement. Il me dit « Si tu veux travailler, vas-y. » Mais à 50 ans, que puis-je faire? Je vois souvent les sœurs. Elles viennent à la maison et je sors comme je veux.
Sur les 88 sœurs que j'ai interviewées, seules 21 ont milité après l'indépendance. 3 dans une structure légale et 3 au moins clandestinement. Et toi, qui étais actif, tu travaillais, tu militais, comment expliques-tu ton repli dans une vie exclusivement familiale?
Être dans un parti exige de la personne d'être présente à chaque réunion, à des heures tardives. Pour une femme mariée qui n'est pas riche, même pas assez aisée pour avoir une bonne, ce n'est pas possible. Je n'ai pas de sœur sur qui je puis compter et j'ai continué à m'occuper de ma mère et de mes frères, même après mon mariage.
À quelle époque as-tu recommencé à voir les sœurs?
Au début, toutes les sœurs étaient occupées par leur mariage et leurs enfants. Pendant la guerre, on ne savait même pas si on pourrait avoir des gosses, tellement on avait été détraqués par les tortures et tout. D'ailleurs, toutes les sœurs n'ont pas eu beaucoup d'enfants, quand elles en ont eu. Malgré qu'on a élevé nos gosses et qu'on ne se revoyait pas depuis l'indépendance, nous n'étions pas réellement des missionnaires. Individuellement, on était là pour remettre les choses en place quand il y avait des gens qui critiquaient le pays.
Aviez-vous repris une activité?
Non. On allait pour le 8 mars et le 1er novembre dans les lycées chez les étudiants pour raconter aux jeunes. C'était bien, ils écoutaient et posaient des questions. Mais après, c'était plus pareil. En 1989, je ne sais plus si c'était pour le 8 mars ou le 1er novembre, Je suis allée à l'école normale supérieure avec Yasmina Belkacem, Fatima Benosman et Jacqueline Guerouj. Les étudiants étaient dans la salle et Yasmine étant très portée par son chauffeur. Et elle était bien habillée, bien coiffée, maquillée. Ils l'ont huée. Pas tous, mais un bon nombre. Ils l'ont huée, Fatima a pris la parole. Elle parle bien, elle a l'habitude et l'expérience. Elle a réussi à les faire taire, elle les a engueulés, elle leur a expliqué que leur attitude était honteuse. Il y en a qui sont partis, il y en a d'autres de ce groupe qui sont restés pour écouter, pour voir ce qui se passait. Ils étaient organisés.
As-tu participé à d'autres rencontres ensuite ?
Non, on ne nous l'a plus demandé, je crois. Ça n'allait plus.
Nous avons eu à plusieurs reprises des discussions politiques. Te souviens-tu à quel sujet ?
C'était au moment du code de la famille. On a éclaté, on n'a pas accepté.
يا ناس الجزائر غطاو الشمس بالغربال نحاجيكم يا بنات عشرين سنة بال
Thank you.
là, tu t'es engagée dans une action politique ?
Non, je ne suis pas politicienne. Pour cela, il faut être formée.
Tu as eu un rôle rassembleur. Tu téléphonais à toutes les sœurs et tu nous recevais avec des bons gâteaux.
L'une appelle l'autre et c'est comme ça qu'on s'est toutes retrouvées.
Tu te souviens-tu que nous étions retrouvés ici, chez toi, en octobre 88, quand nous avons appris que des jeunes avaient été torturés?
Oui, nous avions écrit une lettre de protestation à la présidence. On a vu les étudiants au boulevard Amirouche, siège de l'Union nationale des étudiants algériens, et on a parlé à Milout Brahimi de la Ligue des droits de l'homme. Des jeunes, ils les ont assis sur des bouteilles.
Toi qui étais torturée, comment as-tu réagi?
Comment j'ai réagi? Comme une folle. J'ai assisté à l'interrogatoire de ces jeunes quand ils sont venus avec leurs parents à la Ligue des droits de l'homme. On leur demandait « Que vous ont-ils fait ?» Ils avaient honte de parler, et c'est nous, moi et d'autres sœurs, qui les aidions. Pas mal de gens ont été enregistrés, mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait de ces paperasses. Après, on nous a dit « Il faut vous intégrer à la Ligue des droits de l'homme, sinon vous n'avez pas le droit, marginalement, de courir et de protester. » Certaines se sont intégrées comme Jor Harkourk. Moi, j'ai abandonné. Il faudrait courir et à la maison, il ne faut rien. Il n'y a rien à manger, ils attendent, ils ont l'habitude que je fasse tout. Dès que la femme au foyer sort, il n'y a plus de foyer. Je n'ai personne sur qui compter. C'est la raison qui m'a fait abandonner. Il faut se donner complètement. On ne peut pas être au four et au moulin. Mes filles ne se débrouillaient pas et mon mari ne m'encourageait pas. Lorsque vous veniez à la maison, il était content, il disait... Ici, à la maison, ça ne fait rien. Qu'elles viennent, comme elles veulent. Mais que je ne sois pas là pour les servir, ça ne va plus. L'esclavage, toujours.
Que t'a donc apporté l'indépendance ?
L'indépendance a beaucoup apporté. On ne peut pas dire qu'on a vécu après l'indépendance comme avant. Nos enfants sont scolarisés jusqu'à l'université, les uns sont médecins, d'autres ingénieurs, certains sont partis à l'étranger faire leurs études. Il y a eu beaucoup d'améliorations, le travail pour tout le monde. Celui qui veut travailler, travaille. Ce n'est que récemment qu'a commencé le chômage. Maintenant l'Algérie est malade, que Dieu la guérisse. Tout a évolué, alimentation, habiller tout, l'évolution s'est faite pour tout le monde et dans tout le pays. Moi, je dis que, grâce à Dieu, depuis l'indépendance, on est beaucoup plus heureux, sauf la mésentente. Les Algériens sont musulmans. Pourquoi leur imposer une autre forme d'islam ? Que celui qui veut pratiquer, pratique, et celui qui ne veut pas, ne pratique pas. Chacun se débrouille. Il y a un Dieu qui nous juge. Je n'ai pas à te juger parce que tu ne fais pas de la prière. Tu fais comme tu veux, et quand tu arriveras devant Dieu, tu te débrouilleras avec lui.
Amen.
On sait que peu de femmes ont publié des articles et des livres sur l'histoire de l'Algérie et sur le rôle de celle-ci dans la guerre de la libération. Est-ce que tu en sais plus?
Ce que je sais de cette partie-là de l'histoire et dans l'écriture de l'histoire de l'Algérie, c'est vrai qu'il y a des enjeux un petit peu qui entourent l'écriture de l'histoire partout dans le monde. Et en Algérie, c'est un peu spécial parce qu'il y a des versions qui sont... Il y a une version officielle qui est, qui est transmise aux jeunes et aux lecteurs, et il y a d'autres versions qu'on peut découvrir ailleurs. Mm-hmm. Donc c'est vrai que les femmes ont beaucoup contribué à l'écriture, enfin, ces dernières années, bien après en fait. Au départ, elles ne s'étaient pas vraiment invitées à écrire leur version des choses, mais c'est arrivé par la suite. Donc la femme algérienne, dès qu'elle a pris connaissance de l'importance de l'écriture et la transmission de l'histoire, elle a commencé à écrire. Bien sûr, on connaît plusieurs chercheuses, il y a des chercheuses françaises et algériennes aussi qui ont beaucoup travaillé sur le sujet, il y a aussi les romancières, mais souvent ces romancières-là avaient vécu donc, l'histoire, enfin cette guerre. Mais elle a été écrite d'une certaine manière. Mais aussi, c'est de la transmission aussi. Mais on peut aussi compter donc, les chercheuses qui ont fait vraiment un vrai travail académique, un vrai travail de recherche là-dessus. On connaît par exemple la romancière Mes Abeilles, Assiège-Bas. Et d'autres femmes comme Jamila Amalin qui a beaucoup travaillé aussi sur le rôle de la femme algérienne durant la guerre. Il y a d'autres. Il n'y a pas qu'elle, il y en a d'autres. Et aujourd'hui même, il y a des femmes qui continuent à chercher à écrire sur l'histoire de l'Algérie.
Mais après l'indépendance, les femmes, elles avaient quoi comme rôle?
C'est-à-dire dans l'écriture?
Bah, en fait, juste, est-ce qu'elles étaient visibles? Est-ce qu'on parlait d'elles après l'indépendance? Qu'elles avaient...
Moi, d'après l'expérience, moi justement... là, c'est pas important ce que je vais te dire. D'après ce qu'on a eu avec ton amie Farida, elle est d'une certaine génération. Moi, en fait, j'ai une sœur qui est née en 70 et qui est plus de la génération de Farida. Donc, je lui posais des questions, ça m'avait intriguée. Je demandais à ma sœur si elle connaissait les femmes que moi, j'ai appris pendant la primaire. Pas trop, en fait. Ma sœur, ce qu'elle connaissait, c'est bizarre ce qu'elle m'a dit en plus, ça ressemble vraiment à ce que Farida a dit. Farida, quand je lui parlais, Hassan Mouadé, elle a dit, ça c'est le nom d'une rue. Et ma sœur a dit, je connais Hassan Mouadé parce que c'était le nom de mon école. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ça m'a vraiment... Et là, je me suis dit, c'est de la... Enfin, il y a une différence. Nous, on nous a, si tu veux, forcés à étudier l'histoire de l'Algérie, alors que elle, je pense que cette période-là, c'était pas encore fait. Et c'était donc... en construction.
Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Nous, c'est quelle génération? Donc, c'est les années 80?
Oui, moi j'ai étudié, donc j'ai commencé à partir dès 1982 l'école, donc c'est là où j'ai commencé à apprendre. Et ce moment-là, je pense que ça a été, oui, c'est là où ça a été écrit, ça a été fait. Mais la génération de ma sœur, mais pas vraiment. Et c'est vrai, moi je la trouve, ma sœur, un peu inculte par rapport au passé qui nous concerne. Mais parce que c'était encore le système français. C'était le programme français qu'on a gardé parce qu'on n'avait rien en Algérie. Enfin, il fallait vite former les gens dans des pays arabes. Déjà, l'arabisation, donc on a été former les gens dans des pays arabes. Et tous les enseignants qu'on avait, c'est des gens qui ont étudié dans l'école française. Enfin, ça, ils savaient que ça. Ça m'avait choqué, au fait, le truc de ta copine. Mais ma sœur est dans le même cas, donc rien à dire.
Et entre, par exemple, entre femmes qui auraient pu participer à la résistance et entre enfants, il y avait des choses qui étaient dites, il y avait un échange, on racontait...
Très peu, pas vraiment, hein. Donc on parle pas vraiment, enfin c'est pas un sujet de discussion, la guerre d'Algérie, dans la famille, on peut pas avoir un débat là-dessus, enfin si les gens parlent, enfin c'est surtout quand il y a un événement où il y a une personne qui décède, où on va dire oui, on était ensemble dans tel, c'est ce que je veux dire, donc non.
Donc les femmes ont encore moins leur place.
Exactement. C'est pour ça que maintenant, quand on lit les livres des romancières, elle incite un petit peu les gens à parler, à parler de ça, à témoigner. C'est pas forcément raconter leur version des choses, mais c'est juste raconter le vécu, sans orienter la vision des autres. Juste raconter le vécu.
Et d'ailleurs, justement, dans la deuxième partie d'entretien avec Fatma Baïchi, qu'on va écouter tout à l'heure, elle raconte un peu les tentatives de transmission de ce savoir. En fait, elle était invitée dans des écoles, dans des universités. Il y a quelques tentatives comme ça, mais elles ont vite arrêté parce que, bon, apparemment, l'accueil était assez hostile de la part des jeunes étudiants pour X raisons. Pour les raisons vestimentaires, elles étaient trouvées plutôt coquettes, trop maquillées. Une ancienne combattante, elle était d'origine européenne, et donc elle était critiquée par rapport à ça, qu'elle n'était pas algérienne des souches, et c'est de reste. Donc, cette tentative, elle était vite arrêtée.
On peut comprendre aussi que ça s'est fait... aujourd'hui, il y a une autre guerre qui a suivi celle qui a opposé la France à l'Algérie. Il y a la guerre civile, donc les années 90, était très très marquant, et les gens ne voulaient plus parler de ça, ne voulaient plus parler de guerre, de... juste vivre, respirer un peu plus de liberté. C'est vrai qu'il y a un blocage. Je pense que la société algérienne est un petit peu, comment dire, je sais pas, elle est coincée quelque part. Je sais pas, c'est coincée entre deux guerres, ou alors peut-être plusieurs guerres, et il y a des choses non dites, et la transmission se fait d'une manière pas sereine. Il y a un vrai clivage.
Et en France, c'est pareil.
Eh ben, j'imagine, donc c'est vrai qu'en France...
Parce qu'en France, on parle d'événements et on parle de décolonisation, et moi j'en ai parlé avec des amis pour voir comment on nous parlait ça à l'école et au lycée, et en fait c'est des dates qui passent dans toute la période de décolonisation, donc on nous parle de la guerre d'Indochine qui a fait beaucoup de catastrophes, on nous parle de la guerre d'Algérie, on met quand même le mot de guerre, parce qu'au début c'était plus événement, et puis après c'est devenu guerre, mais ça passe en plein de dates, après on voit toute l'Afrique est décolonisée, et je pense qu'en tant que Français, on a vraiment du mal à capter ce que c'est, et les enjeux ce que c'était, et après, eh ben, on voit toutes les pressions qu'il y a actuellement de la part des militaires, où il y a un tabou, on peut parler de la torture, ça a été quand même super compliqué, le film La bataille d'Alger, il a été censuré hyper longtemps en France, et que même, par exemple, les personnes du FLN qui devaient être actives en France, peut-être que c'était pas possible de parler parce qu'elles avaient encore peut-être le risque, je sais pas, de représailles ou d'autres. Et donc après, ça fait un peu... En Algérie, c'est coincé, puis en France aussi, c'est coincé pour d'autres choses, en fait, parce que peut-être des intérêts économiques encore avec l'Algérie, il y a l'histoire de la défaite, donc la Seconde Guerre mondiale, là, on en parle, et on est résistante et tout ça, mais... La guerre d'Algérie, c'est vraiment nié, quoi.
Oui, c'est vrai que c'est un peu sensible. C'est vrai qu'en France, c'est à partir de 1999 quand on a vraiment qualifié ces événements de guerre par le Parlement. Mais bon, je pense qu'il va falloir attendre quelques années pour que les choses se posent d'une manière un peu plus légère et que le temps passe un petit peu pour qu'on puisse écrire ensemble cette page de l'histoire, même si elle est sombre. Mais je pense que c'est toujours possible de se mettre d'accord, pas forcément sur une vision commune ou unique, mais parler ensemble, mais d'une manière beaucoup plus sereine.
Ouais, puis après, moi, je trouve aussi dans nos démarches à nous, quoi, il y a un petit film qui s'appelle Moudjahidat qui a été créé par une Française. On allait interviewer des femmes en Algérie et en France. C'est vachement des initiatives pour sortir les histoires qui sont un peu souterraines. Parce qu'il y a les résistantes, puis après, il y a les femmes de résistantes ou les résistantes. Et donc, c'est tout le temps tirer des fils pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et l'histoire qu'on ne veut pas nous raconter. Et moi, je trouve aussi que c'est un peu compliqué, parce qu'avec les dernières déclarations du gouvernement Sarkozy et le fait de passer dans les livres des manuels d'histoire le rôle positif de la colonisation, on voit que ça crispe. Et c'était quoi qu'on avait vu en Algérie, la réponse du Parlement algérien ?
Algérien, voilà, qui demandait d'incriminer la guerre. Donc cette crispation au niveau français, elle va se répercuter aussi en Algérie. Et... enfin, je pense aujourd'hui, on peut pas dire que c'est le peuple algérien qui demande ça. C'est une partie des parlementaires algériens. Après, si on parle pas, même en France, d'une manière un peu plus transparente de la guerre d'Algérie et parler, moi personnellement, j'étais très choquée quand en 2005 on commençait à parler du rôle positif de. Franchement, moi je trouvais ça très choquant quand il y a eu quand même 1,5 million de morts pendant une guerre. Où est le point positif?
Et puis de la colonisation aussi. Parce que c'était bien la sûr. Colonisation, la guerre.
La guerre, les deux. Les deux. Donc une occupation, y a un territoire qui a été peuplé par des Européens, des gens qui ont été chassés de leurs terres, de leurs droits, de leur. Il n'y a pas de. Dans une guerre, il n'y a pas de positif pour moi.
حب في كل مكان صوتي شدا صوتي شدا بحب في كل مكان ويرددوا العالم ويرددوا العالم ويرددوا العالم ويرددوا العالم بكل لسان صوتي الشدا صوتي الشدا بحب كل مكان صوتي الشدا صوتي الشدا بحب كل مكان ويرد ويرددوا العالم ويرددوا العالم ويرددوا العالم بكل لسان بكل لسان يا تزاين على شبيني وسام يا رمز البطولة على مدى الأيام واسمك يا تزاين على شبيني وسام يا رمز البطولة على مدى الأيام